les gendarmes, c'est leur mittal, sont là pour le 1er mai, vous leur avez envoyé des bombes dans lacrymogènes dans la tête. Moi, j'ai toujours participé au 1er mai. Alors, vous n'êtes pas la France qui travaille, monsieur Sarkozy. Vous êtes la France des vendus, des pourris. Et le 1er mai, laissez-la aux travailleurs, aux syndicalistes, à ceux qui travaillent vraiment. C'est une fête joyeuse, vous n'allez pas la salir une fois de plus. Dites que vous faites le 1er mai pour vous allier à Marine Le Pen, mais pas la France qui travaille. Elle ne vous a pas attendu pour faire le 1er mai, la France qui travaille. Au revoir, c'est Jacqueline.
Bonjour, c'est Gérard. J'aimerais rappeler à nos politiciens que la fête du travail ne s'appelle comme ça que depuis le 24 avril 1941, sur décision du maréchal Pétain. Avant, c'était la fête des travailleurs. Et donc, si M. Sarkozy veut faire la fête du vrai travail, cela signifie qu'il se situe encore plus à droite que Pétain. C'est quand même assez original. Bonne continuation à tous.
Bonjour M. Mermet, qu'est-ce que j'ai ri en écoutant vos appels répondeurs de ce lundi. Et le Front National à 20%, répété plusieurs fois. Et les idées nauséabondes du Front National, qu'auraient 2 Français sur 10, comme a dit un de vos appelants, mais que j'ai ri. Mais dites-moi, ce qui est nauséabond en France, c'est pas les idées du FN, enfin si tant est qu'il en est d'ailleurs. Ce qui est nauséabond, ça serait pas plutôt les 8 millions de compatriotes sous le seuil de pauvreté? Ça serait pas le succès toujours renouvelé des Restos du Cœur? Ça serait pas les 4 millions de mal logés? Ça serait pas les vieux qui se soignent pas pour éviter le recommandé de la banque? C'est pas ça qui est nauséabond? Croyez-moi, retenez ça, un peuple dont on étrangle la liberté, il finit par prendre les armes. Un peuple dont on étrangle le portefeuille, eh ben il finit par prendre un bulletin de vote extrémiste. Voilà, vos correspondants, et ils devraient essayer de retenir ça pour expliquer un peu les 19% de Le Pen. Voilà, c'était Franck d'Agen. Moi, personnellement, j'ai voté du Pourignan, mais j'ai fait comme 9 électeurs de Le Pen sur 10. Je n'ai pas tant voté pour ce candidat que contre tous les autres. Bonne journée, au revoir.
Je vous téléphone à la suite de l'émission d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on dise à M. Mélenchon qu'il ne se désespère pas, que moi, la première et mes enfants, on n'a pas voté pour lui, quoiqu'on en avait bien envie, mais parce qu'on voulait absolument faire barrage à Sarkozy. Au revoir, merci.
Je me régale à écouter votre émission avec toute la gauche qui pleure, l'extrême gauche, c'est exceptionnel. Ben, ça vous fait du bien, hein, vous voyez si haut, puis maintenant ben, vous voyez si bas. Donc voilà, allez les trotskistes, le gros soir n'est pas encore pour demain. Donc là, vous allez tous voter Hollande et c'est très bien. Non, je me régale. C'était Pierre Dancy. Allez, ciao.
Bonjour Daniel. Comme tout le monde, on est un peu choqué de voir le score du Front National. J'essaie d'analyser. Ce matin, à France Inter, j'écoutais un maire d'une commune rurale, 1000 habitants. Le Front National a fait 28%. Le maire socialiste a pensé démissionner. Je ne comprends pas. On voit des reporters, là, les Givenchy, les Ruffin, là, voir cette France rurale qui vote Front National. Il n'y a pas de banlieue, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de crise, pas d'arabes, il n'y a pas d'immigrés. Et ils votent Front National, pourquoi? Par peur que peut-être si un jour ça arrive, on se demande même pourquoi. Enfin, c'est encore moins compréhensible. Éclaire-nous, parce que là, on ne sait plus dans quel pays on vit. Là. Allez, courage à tous les objets. C'est Sébastien de Aix.
Éclaire-nous, c'est beaucoup demandé. On n'est pas les phares de la pensée, mais on essaye de contribuer, effectivement, à vous donner du grain à moudre. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On n'est pas au bout de Le Pen. C'est notre préoccupation du jour et on n'est pas les seuls. Tout le monde, évidemment, est assez stupéfait par les fameux résultats d'avant-hier, des élections et de la place qu'occupe désormais le Front National et Marine Le Pen dans la course au second tour et puis dans le paysage politique français. Et on va revenir sur une émission du 31 août dernier. C'était la rentrée. Je dis pas que c'était passé inaperçu, mais ça fait partie de ces émissions qui tombent un petit peu. Voilà, c'est pas le moment. Ça arrive souvent, ça. De choses, ça nous empêche pas du tout de nous entêter et d'avoir quand même quelques auditeurs. Mais vous allez voir à quel point cette émission va prendre du sens à notre avis. Aujourd'hui, c'était un entretien avec Dominique Vidal, que vous connaissez, qui est historien, qui est journaliste, qui était journaliste au monde diplomatique, et qui là nous donnait son point de vue sur le Front National et sur Marine Le Pen. On avait été étonné du côté comment Marine Le Pen prenait toutes les idées, disons, de la gauche, les idées altermondialistes. Et donc c'était notre titre, Marine altermondialiste, point d'interrogation. Donc on va retrouver cet entretien aujourd'hui, en se disant qu'il faut être extrêmement prudent et bien vérifier et bien recouper toutes les informations qui circulent actuellement, tous ces chiffres qui nous tombent dessus. Et j'en prends un exemple. Depuis dimanche, on dit record historique pour le Front National. Eh bien, il faut faire très attention. Tout le monde affirme qu'avec ces 17,9%, Marine Le Pen dépasse son père et ses 16,86% de 2002, vous vous souvenez? Oui, ça, on s'en souvient. Eh bien, dans ce calcul, on oublie Bruno Maigret. Souvenez-vous de Bruno Maigret. En 2002, il faisait 2,34%. Soit, pour l'extrême droite, 16,86 plus 2,34, ça fait 19,20. Et on peut donc dire aujourd'hui que Marine Le Pen est de 1,3% en dessous de l'extrême droite de 2002. C'est quand même important cette nuance. Et j'entends pas beaucoup qu'on donne ces précisions. Je donne cet exemple-là pour vous inciter et nous inciter aussi à nous de l'autre côté. C'est peut-être encore nous qui devons être les plus prudents. Et sur ces histoires-là, par rapport à tous ces chiffres qui se baladent, notamment sur le vote des ouvriers, oui ou non votent-ils pour le Front National, les jeunes, vous avez vu cette fameuse enquête du Monde qui est très très contestée sur le vote des jeunes envers le Front National, etc. Tout ça doit être vérifié. Et puisqu'on est là-dedans en ce moment, passionné par tout ça, ému, en colère ou au contraire très très exalté par toutes ces questions, c'est tout ça, c'est normal, c'est bien, mais soyons gare aux émotions, on va dire, gare aux émotions. Donc on n'est pas au bout de Le Pen aujourd'hui, avec Dominique Vidal. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Passionaria, c'était une femme de gauche, une communiste qui a résisté durant toute sa vie. Passionaria a principalement lutté pour les valeurs de la République en Espagne, contre le franquisme. Elle défendait également le combat des féministes avec ferveur. Cette grande dame, Dolores Ibarruri, est un emblème de la gauche dans mon pays. Alors, madame la journaliste du 7-9, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, vous êtes priée de ne plus désigner Marine Le Pen comme l'impassionnaria de droite. C'est une offense que vous faites à la mémoire de tous les républicains espagnols qui ont lutté contre l'oppresseur, c'est-à-dire l'extrême droite espagnole. La passionnaria a été rouge et elle doit le rester. Merci. Carmen Serrano de Luxembourg.
Bonjour. Le repère du pays d'Aix se réunit tous les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois à 19h30 au restaurant du Coton Rouge, 4 chemins du Coton Rouge. Ce mardi, le 24, nous n'avons pas jugé utile de choisir un thème. Nous avons pensé que l'actualité s'imposerait. Au revoir.
Ce matin, Pascal Clark recevait un groupe de rappeurs, Rumeurs, pour leur quatrième disque. Texte que nous avons entendu, commençant par « L'homme est né libre », référence à Jean-Jacques Rousseau, début du contrat social, « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Quelle respiration que d'entendre, tant dans leur texte que dans l'interview, leur maîtrise de la langue française, leur connaissance de la littérature, et même de la métrique, rime et versification. Ces jours prochains, 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, et en ce temps d'élection, nous sommes rattrapés par l'ostracisme, sinon le rejet des origines de certains citoyens. Pour le 200e anniversaire, en 1912, de Jean-Jacques Rousseau, Charles Maurras écrivait dans le numéro 182, en date du 30 juin 1912, de l'Action française, « Rousseau, ce protestant, ce métèque. Moi-même, Bougnoul, Bicotte, et tronc de figuier, j'ai passé mon enfance en Algérie, j'ai enseigné 25 ans le français dans le cadre de l'instruction publique à Genève à des adultes et à des adolescents. Récemment, Le Figaro citait, en date du 23 décembre 2011, la maîtrise parfaite du français de mes élèves. Il s'agissait de Kim Jong-nam, fils aîné de Kim Jong-il, de Corée du Nord. J'ai donc initié cet élève au français en Suisse en 1988, à son arrivée. Décidément, qui nous relie, les rappeurs Jean-Jacques Rousseau et tous mes élèves métèques et moi-même, c'est que nous n'avons qu'une seule patrie, la langue française.
Les candidats du Front National sont aujourd'hui le premier parti ouvrier de France.
Il faut changer ce modèle ultra-libéral dont on voit qu'il est en réalité un système de casse économique et de casse sociale.
Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est la reprise de tout le fonds de commerce national-socialiste. On oublie que dans national-socialiste, il y a aussi socialiste, qui était un discours démagogique à l'égard d'un électorat populaire, ouvrier, qui est parmi les toutes premières victimes de la crise.
Il faut retrouver l'État en le remettant au service du peuple. Et pour cela, enchasser les coucous qui en ont fait la courroie de transmission des volontés des multinationales et de l'hyperclasse mondiale. À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien, disait Jaurès en son temps, lui aussi trahi par la gauche du FMI et des beaux quartiers.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Dominique Vidal, Marine Le Pen, altermondialiste.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Dominique Vidal, je vous ai demandé de venir nous voir, là-bas si j'y suis, pour une raison. La raison, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen s'est installée dans le paysage politique d'une façon nouvelle. Elle a conquis le personnel médiatique, elle a conquis une partie de l'opinion, on l'a vu dans les élections, on le voit régulièrement dans les sondages.
Quelques intellectuels médiocrates aussi.
Aussi. Et Marine Le Pen semble altermondialiste. Elle est contre la mondialisation, elle est contre les paradis fiscaux. Et à bien des égards, elle emprunte aux idées que vous défendez depuis longtemps, collaborateur du monde diplomatique que vous fûtes et que vous êtes toujours en partie, qui sont les idées que nous connaissons de la gauche critique et altermondialiste, pour caricaturer un peu les choses. Donc voilà que Marine Le Pen fait son marché, en somme, chez vous. Très bien, première chose. Deuxième chose, en novembre 2009, nous étions en Allemagne et nous avons fait une rencontre avec d'anciens néo-nazis, avec de jeunes anciens néo-nazis repentis et qui nous ont expliqué comment fonctionne ce mouvement néo-nazi. Et ils nous ont dit, oui, nous étions dans la partie gauche de ce mouvement, dans la partie anticapitaliste de ce mouvement, dans la partie altermondialiste de ce mouvement. Nous nous trouvons face à une extrême droite en France qui se dit altermondialiste, et voilà des néo-nazis qui nous disent à quel point ils respectent et ils soutiennent ces idées-là. C'est assez troublant. C'est assez troublant. Alors, pour Marine Le Pen, on se rassure en disant « Oh, ben c'est de la démagogie populiste, électoraliste, qui n'a pas de fondement, qui est purement opportuniste. » Pour les néo-nazis, on se dit « Ben, d'abord, c'est pas chez nous. » On se rassure à peu de frais. Et donc, je vous ai fait venir pour que vous nous expliquiez un petit peu tout ça. Je vais vous proposer, dans un premier temps, je ne vous ai pas donné la parole encore du tout, mais on va vous entendre, un document, donc, cette rencontre avec ce jeune repenti qui, je le rappelle, milite aujourd'hui dans un mouvement anti-néo-nazi. Alors ça consistait à quoi, d'intégrer une organisation des néo-nazis? Quelles étaient les actions? Quel était le programme?
En erster Linie hatten wir schon uns sehr speziell der Jugendarbeit gewidmet, das heißt die Rekrutierung von Jugendlichen.
On s'est particulièrement concentré sur le recrutement de jeunes.
Weil natürlich, wer die heutige Jugend beeinflusst, wer sie lenkt und steuert, hat beeinflusst auch die zukünftige Politik in Deutschland.
Parce que celui qui peut prendre de l'influence sur la jeunesse actuelle a effectivement de l'influence sur la politique à venir.
Auch war es natürlich das Ziel, dass unsere Politik, unsere Szene oder unser Denken halt gesellschaftsfähiger wird.
Notre but était également de rendre plus convenable l'idéologie au sein de la société.
Par exemple, en faisant quoi et en disant quoi?
Indem man sich speziell, was die Jugendarbeit angeht, neuen Subkulturen öffnet, das heißt weg von diesem Skinhead, also von diesem klassischen Nazi-Klischee.
En s'éloignant de cette image skinhead du néo-nazi.
Modern.
Skinhead, le cliché du skinhead nazi.
Sich moderneren Subkulturen öffnet und halt auch dementsprechend auch anderen politischen Themen mehr sich darauf konzentriert, wie Antikapitalismus, Globalisierungskritik.
Und en s'ouvrant à d'autres sujets tels que l'antimondialisation,
l'antikapitalisme. C'est-à-dire reprendre des idées de la gauche.
En reprenant des idées de la gauche de manière ciblée.
Speziell natürlich auch ganz groß der sozialen Frage, also dass man quasi das heute wirtschaftliche Geflecht quasi aufnimmt und an der Perspektivlosigkeit der Leute dort anknüpft.
Donc de reprendre le manque de perspective que les gens ressentaient dans le cadre de la crise économique actuelle, pas de travail, etc. Donc on essayait de prendre les gens à cet endroit-là.
Das heißt, die soziale Frage wurde schon stark thematisiert.
Donc tout le problème social était très thématisé.
Und das wurde halt mit Aktionen untermauert, mit auch teilweise Aktionen, die so quasi mehr aus der Linken stammen.
Et on soutenait ça par des actions qui étaient fortement inspirées d'actions plutôt gauchistes.
Sprich Hausbesetzungen, symbolische Hausbesetzungen.
Ja, des squats, par exemple.
Um halt eine Forderung zum Beispiel für ein nationales Jugendzentrum nachzugehen.
D'exiger que des centres pour les jeunes soient créés.
Natürlich auch die öffentliche Präsenz in Form von Demonstrationen, von Infoständen.
Évidemment aussi la présence publique était importante aussi, par exemple sous forme de manifestations.
Natürlich auch das Mitreden in Politik, das heißt Stammtische, Veranstaltungen besuchen.
Parler dans le milieu politique en organisant des tables rondes.
Die dann teilweise aber auch in Form von massiven Störungen. Das heißt, dass man Veranstaltungen von politischen Gegnern aufgesucht hat, um die auch zum Abbruch zu zwingen.
On essayait aussi de perturber d'autres manifestations politiques en y allant et puis en essayant de les empêcher de parler, par exemple.
De quelle époque tu parles là?
99 bis 2005.
De 1999 à 2005.
Voilà, Dominique Vidal, ce dialogue avec ces textes néo-nazis. Alors, il évoque une période 99-2005. Vous avez travaillé et écrit des papiers sur ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce que vous venez d'entendre.
Je voudrais d'abord vous dire que l'Allemagne est vraiment un cas particulier. C'est bizarre qu'on parte pour cette conversation de cet exemple parce que c'est presque un contre-exemple. Et pas pour rien, évidemment, parce que l'Allemagne a fait un travail sur elle-même. Vous me direz, elle ne pouvait pas faire autrement, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un des pays où le travail sur l'histoire a été à ce point fait d'une manière massive, pas seulement les intellos, mais aussi la grande masse de la population, qu'il n'y a pas d'extrême droite en Allemagne. C'est-à-dire politiquement, électoralement, l'extrême droite est complètement marginale. Les républicaineurs font moins de 1%. Et certains disent que s'ils ne se sont pas interdits, c'est parce qu'il y a plus d'agents des services de sécurité que de membres réels. Donc, si vous voulez, l'Allemagne, c'est plutôt typique d'une de ces trois familles de l'extrême droite européenne, qui est la vieille famille nostalgique du néo-nazisme, du néo-fascisme, mais qui est complètement marginale, qui ne joue plus de rôle, sinon, je dirais, un peu spectaculaire, un peu presque folklorique. Alors que les deux autres familles, elles, sont des familles en plein développement. D'abord, pour commencer par ce qui est le plus curieux, celle que j'appelle la famille des ovnis, parce qu'on ne sait pas très bien d'où ils arrivent. C'est le Parti de la Liberté néerlandais, le fameux PVV, qui est issu de la liste de Pim Fortuyn, et qui a fait un succès incroyable aux Pays-Bas, un pays de la tolérance. Et puis, c'est, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais plusieurs partis d'extrême droite du nord de l'Europe. Donc là, on a affaire à des partis dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais qui ont un succès fou. Certains viennent de vieux partis agrariens, de vieux partis conservateurs, dont ils ont pris les rênes et qu'ils ont transformés. Mmh. Et puis, on a une troisième famille qui est la plus intéressante, et en tout cas la plus importante, et certainement pour nous en France, la plus significative. C'est la famille de ceux qui ont cherché à muter pour essayer de rompre le cordon sanitaire que les forces démocratiques avaient réussi à organiser autour d'elles, et accéder au pouvoir. Mmh. Accéder au pouvoir en alliance avec tout ou partie de la droite dite républicaine. Et ça, c'est d'un côté Haider, feu Haider, en Autriche, avec le Parti de la Liberté, le FPE, qui est quand même monté à plus de 20% des voix, sans renier, lui, ses convictions très proche du Troisième Reich, hein, dont il vantait les louanges. C'est de l'autre côté quelqu'un qui était au bout de la mutation. On peut même se demander si on peut encore qualifier la Science nationale d'extrême droite, le parti de Gianfranco Fini en Italie, qui est complètement intégré à la droite républicaine italienne, qui est un allié concurrent de Berlusconi. Et puis vous avez un peu Marine Le Pen entre les deux, qui voudrait bien muter, on le voit avec son discours, on va sûrement en parler, mais qui voudrait muter sans renoncer à un certain nombre de thèmes traditionnels du Front National. Donc, elle voudrait faire comme Haider, mais réussir comme Fini. Il y a une petite contradiction. Qu'est-ce qui unit ces forces-là? Je parle des ovnis et des grandes forces. Je mets de côté votre camarade là, que vous tutoyiez tout à l'heure à Berlin. Il avait un accent berlinois assez marqué. Ce qui les unit, c'est un cocktail de discours qui est un cocktail mortifère et qui explique le succès de tout ça, y compris celui de Marine Le Pen. Mais je crois qu'il faut l'inscrire dans un contexte européen. Cocktail de trois discours, pour aller vite. Premièrement, un discours nationaliste, anti-européen, anti-fédération européenne, anti-mondialisation, qui présente la solution à tout comme le repliement sur la nation, sur l'État-nation, dans sa pureté de la race. C'est pas dit comme ça chez nous, mais c'est dit comme ça ailleurs. Et on a un peu la perpétuation de ce discours nationaliste qu'on a bien connu dans toute l'histoire du 19e et du 20e siècle en Europe. Deuxième discours, lié au précédent, c'est la xénophobie, voire le racisme, avec cette particularité qui n'est pas propre au Front National, qu'on retrouve ailleurs en Europe, qu'on est passé progressivement de l'antisémitisme, qui était le fond de commerce de cette extrême droite dans les années 60 à 90, disons, à l'islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore ici ou là des pointes d'antisémitisme, mais visiblement, tous ces dirigeants d'extrême droite ont compris que leur intérêt était plutôt de développer la haine de l'arabe et plus généralement du musulman. Évidemment que le 11 septembre est passé par là et que toute la rhétorique bouchienne et néoconservatrice sur l'ennemi, c'est l'islam, le choc des civilisations, enfin, l'islam a remplacé le communisme quoi, comme ennemi public numéro un. Tout ça jouait un rôle. Mais c'est aussi la concurrence dans la crise, c'est-à-dire les Arabes nous prennent notre pain, nous prennent nos emplois, voire nous prennent nos femmes. On se souvient de Falachi, le pauvre écrivant, que les femmes de bon goût ne devraient pas pouvoir penser à avoir des relations avec des Arabes. Enfin, il faut se souvenir de ça, approuvé par notre ami Finkielkraut à l'époque.
Absolument, absolument. Et rencontrant un très, très grand succès d'émission.
Ça, c'est le deuxième élément du cocktail. Et puis, le troisième, c'est celui dont nous parle votre ami berlinois. J'ai remarqué que vous
le
tutoyez.
Mon interlocuteur.
J'ai remarqué que vous le tutoyez quand même. Hein, c'est peut-être. Enfin bon, on va en reparler. Oui. Le troisième élément, et ça, c'est vraiment nouveau, c'est la reprise de tout le fonds de commerce national-socialiste, on oublie que dans national-socialiste, il y a aussi socialiste, qui était un discours démagogique. Aujourd'hui, on vous dirait populiste, mais comme vous savez, au monde diplomatique, on n'aime pas beaucoup ce terme, et je partage cette réticence à l'égard du terme. Je dirais simplement de promesses démagogiques à l'égard d'un électorat populaire, ouvrier, qui est parmi les toutes premières victimes, avec des immigrés, de la crise. Donc ça, ce cocktail de ces trois éléments, c'est tout à fait redoutable.
Et ce qu'exprimait votre interlocuteur berlinois, c'est un petit bout de ça qui est la prétention à voir dans la tradition nationale-socialiste revisitée, évidemment, de manière moderne, avec des cultures ouvertes, comme il dit, en fait, ce qu'a été, je dirais, un des piliers de la montée du fascisme mussolinien et du nazisme hitlérien en Italie, en Allemagne, dans l'entre-deux-guerres.
Vive la France aux Français !
Tu dégages. France 2, 3 mai 2011.
Tu dégages, tu fais de la provocation devant les journalistes. Tu n'es pas là pour servir la soupe à la presse de gauche.
C'était en 2006, devant les caméras, Karl Lang, l'un des dirigeants du FN, demande à des crânes rasés de quitter le défilé du 1er mai. Cette année, pour que la manifestation soit une réussite, Marine Le Pen a donné des instructions très claires à ses secrétaires départementaux. Elle a prévenu que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un skinhead sera exclu manu militari. Enfin, il y a l'éviction des militants du FN pris en photo en train de faire le salut nazi. Alexandre Gabriac, conseiller régional, a été exclu par Marine Le Pen. La presse d'extrême droite dénonce une purge.
Elle est profondément dans son fond antifasciste, foncièrement bien pensante, foncièrement de gauche, je pense. Ouais. Et donc, je pense qu'elle a vraiment un rejet presque viscéral de tout ce qui est de droite ou de droite radicale.
Et pourtant, si Marine Le Pen a relooké l'héritage politique de son père, elle n'a pas abandonné pour autant la préférence nationale, thème majeur. Le FN semble en plus à l'abri d'une scission.
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Je voudrais quand même utiliser mieux vos qualités d'historien, Dominique Vidal, parce que ce lien entre l'extrême droite et l'anticapitalisme qu'on a, qui se manifeste et qui s'exprime chez Marine Le Pen, que vous dites ne pas relever seulement de la simple démagogie, à une sorte de tradition dans l'histoire. Hein. Et ce serait bien qu'on comprenne que peut-être, pour nous évidemment, l'extrême droite égale le capitalisme, puisqu'on est contre l'extrême droite et contre le capitalisme. On met ces deux adversités ensemble. Je crois qu'on se trompe assez. Il est arrivé assez souvent dans l'histoire que l'extrême droite s'allie avec le camp anticapitaliste ou emprunte ses idées ou assume ses idées.
Je ne dirais pas ni s'allie, ni assume ses idées, ni reprend ses idées. Non, je dirais que l'extrême droite et notamment le national-socialisme, pour parler des années 30, ont su récupérer à leur profit la colère populaire que la gauche n'arrivait pas à incarner, du fait de sa division, dans laquelle les communistes allemands portent une responsabilité importante, mais aussi la social-démocratie allemande, on l'oublie. C'est quand même pas les communistes allemands qui ont assassiné Rosa Luxembourg ni Karl Liebknecht. C'est un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur était social-démocrate. Disons que si on réfléchit sur les responsabilités à l'époque, elles sont pour le moins partagées entre communistes et sociaux-démocrates. Mais le fait est que la gauche n'était pas capable, dans la crise incomparable avec celle que nous vivons, qui était celle de l'Allemagne de l'époque, d'offrir une alternative à des millions de chômeurs. Et ce qui me fascine, j'ai sous les yeux deux graphiques. Un graphique qui est l'irrésistible ascension du Parti national socialiste d'Allemagne. Et à côté, j'ai le graphique de l'évolution du chômage. Ils sont quasiment parallèles. Ces deux graphiques sont parallèles. Mais dès qu'on fait les comparaisons historiques, on risque gros.
Comparaison n'est pas raison.
Comparaison n'est pas raison, belle formule, mais plus précisément, nous ne sommes ni dans la même période, ni dans les mêmes pays. Donc, il faut tout de suite dire attention, avec 3 points d'exclamation, la France est un vieil État-nation, avec des traditions démocratiques enracinées depuis la Révolution française et même avant, les Lumières. Alors que l'Allemagne est un État-nation récent, qui n'avait pas d'expérience démocratique avant la République de Weimar, juste après l'écrasement de la Révolution spartakiste en 1919. Deuxièmement, la crise, même si elle prend des proportions graves aujourd'hui, n'est pas comparable avec ce qu'était la crise en Allemagne, qui a fait tomber dans la misère des millions et des millions d'Allemands, et pas seulement des couches populaires, aussi des classes moyennes en masse. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, dans l'électorat d'Hitler, qui passe, pour mémoire, de 2,4% en 1924 à 37% et plus en 1932, les gros bataillons viennent des classes moyennes, ne viennent pas de l'électorat socialiste ou communiste. Donc, c'est pour dire, il faut faire bien attention quand on analyse. Je reviens à ma comparaison. Troisième élément, c'est évidemment un élément important. La stratégie qui était celle des extrêmes droites avant-guerre et celle des extrêmes droites aujourd'hui n'a pas de point de comparaison. Les extrêmes droites avant-guerre veulent prendre le pouvoir pour elles. Et si ça passe par des élections et par des alliances, ça passe aussi par l'exercice d'une terreur de masse. On ne peut pas comparer ce qui se passe en Europe aujourd'hui avec ça. Le but d'une Marine Le Pen, ou d'un Fini, ou même d'un Haider, sans parler des ovnis dont j'ai parlé, c'est simplement de faire progresser leurs idées le plus loin possible, de telle manière qu'à un moment donné, une partie de la droite soit amenée à faire alliance avec ces extrêmes droites et à les intégrer au pouvoir. Mais je crois qu'il ne faut pas donner l'impression, si on veut comparer, qu'il y aurait point à point des ressemblances entre Marine Le Pen, Mussolini ou Hitler. Ce serait stupide, absurde et en plus dangereux, parce que ce serait complètement démobilisateur. On aurait l'impression d'une espèce de fatalité qui nous a... Non. Mais ce qui est frappant quand même, et ça je veux y insister, parce que sinon on tient qu'un bout de la chaîne, il y a l'autre bout aussi, c'est la coïncidence de ce cocktail. Ce cocktail que j'ai décrit, nationalisme exacerbé, xénophobie, racisme en l'occurrence, chez nous, islamophobie, et populisme au sens de la démagogie ouvriériste, ça se trouve aussi bien dans le national-socialisme, dans le fascisme mussolinien, que dans les extrêmes droites d'aujourd'hui, y compris Marine Le Pen.
Il faut retrouver l'État en le remettant au service du peuple.
BFM TV.
Et pour cela, enchasser les coucous qui en ont fait la courroie de transmission des volontés des multinationales et de l'hyperclasse mondiale.
26 janvier 2011.
Car l'État est devenu l'instrument du renoncement devant l'argent.
Marine Le Pen.
Face à la volonté toujours plus insistante des marchés financiers, des milliardaires qui détricotent notre industrie et jettent des millions d'hommes et de femmes de notre pays dans le chômage, la précarité et la misère. À l'heure où la crise et la mondialisation font rage, quand tout s'effondre, il y a encore l'État. À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien, disait Jaurès en son temps, lui aussi trahi par la gauche du FMI et des beaux quartiers.
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Dominique Vidal, il y a de quoi quand même être troublé. On se souvient comment Nicolas Sarkozy a utiliser l'image de Guy Môquet, Jaurès, citant Jaurès à l'envi. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle aussi fait son marché chez Jaurès, cite Jean-Pierre Chevènement, cite Emmanuel Todd, et elle a, semble-t-il, quand même un certain nombre de conseillers, d'intellectuels ou de journalistes qui sont des gens, disons, des républicains, des souverainistes, voire même carrément des gens de gauche. Et ce qui est troublant là-dedans, c'est, par répercussion, le discrédit que ça apporte sur les idées de gauche ou les idées égalitaires, les idées, l'horizon socialiste.
Il y a quelque chose qui est fascinant. Vous parlez de Jaurès, ça me fait me souvenir d'une phrase très importante du discours de Le Pen. Le Pen, non pas Marine, mais Jean-Marie. Le 1er mai 2011, lors de la fameuse fête annuelle de Jeanne d'Arc. Parce qu'il y a une fascination pour Marine Le Pen que, personnellement, j'ai du mal à m'expliquer. Hein. Dans la classe médiatique, même dans la classe politique, on a l'impression qu'il y a là une espèce de génie de la politique. Excusez-moi, il faut rendre à César ce qui revient à César. Le tournant dont nous parlons en ce moment, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a pris. Je cite... Je vous ai amené, c'est la seule citation que j'ai amenée, mais celle-là, j'y tiens. C'est donc le 1er mai 2011, devant les troupes du FN. « Marine, dit son père, me disait l'autre jour à propos de ce discours du 1er mai, Jaurès et pas Thorez. » Et Le Pen ajoutait, Le Pen, Jean-Marie, « Et pourquoi pas ? Avant que le Parti communiste français et les syndicats n'eussent trahi les ouvriers en acceptant la mondialisation et l'Europe, et en devenant immigrationniste, Georges Marchais ne réclamait-il pas son arrêt immédiat et ne défendait-il pas le produisant français ? Il avait raison comme nous avions raison. Et Le Pen, le père, ajoutait « Pourquoi ne pas le dire ? Cette gauche-là, qui vit encore, celle de la défense des opprimés, des exploités, des petits patrons, des petits fonctionnaires, des petits paysans, est certainement plus éloignée de la gauche américaine, des Strauss-Kahn et des Aubry que nous. Elle est plus proche de nous que cette droite de l'argent roi, des Rolex et des chanteuses, celle qui finance les banques, qui verse des milliards de bonus à ses traders pendant qu'un de nos paysans se suicide chaque jour. » Donc, c'est une pensée collective. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a sorti de son chapeau ou de son expérience dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une stratégie qui a été mise en œuvre consciemment par son père et qu'elle poursuit avec l'avantage de la jeunesse, d'une tradition débarrassée des petites phrases et des relents puants du papa. Tout ça est oublié avec elle. Et à mon avis, le but est triple. Premier but, draguer l'électorat ouvrier. On va y revenir parce qu'elle réussit
oui.
à le faire. Deuxièmement, donner plus de respectabilité au Front National, en faire un parti comme les autres. L'idée que le Front National est un parti comme les autres est devenue une idée majoritaire, alors qu'elle était minoritaire. Et troisièmement, faire avancer l'idée de l'alliance possible, voire probable, entre une partie de la droite républicaine, UMP en l'occurrence, et le Front National. Alliance locale d'abord, régionale et puis éventuellement nationale. Et là encore, une partie de l'électorat UMP est sensible à cette éventualité, même si, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, il résiste quand même. Mais ce qui est le plus frappant, peut-être c'est de ça qu'on pourrait parler, parce que c'est vraiment intéressant, c'est que Marine a réussi là où son père n'avait qu'à moitié réussi, c'est-à-dire draguer une partie de l'électorat ouvrier.
À moitié réussi, cela dit, en 2002, lorsque le Front National, Le Pen, se retrouve au deuxième tour, il déclare que le Front National est devenu le premier parti ouvrier de France.
Oui, mais remontons un tout petit peu en arrière. Il y a un très beau travail qui a été fait par plusieurs chercheurs, mais un en particulier qui mérite d'être cité, qui s'appelle Florent Gougou, sur l'évolution de l'électorat ouvrier pendant toute la Ve République. Ce chercheur montre qu'il y a la génération héroïque, celle du Front Populaire, la résistance, la libération, qui est une génération ouvrière entièrement à gauche ou quasiment. Ensuite, vous avez la génération ouvrière de la modernisation, qui commence à donner des signes de désarroi, mais qui reste encadrée par le PC, par la CGT, par la gauche traditionnelle. Et maintenant, vous avez la génération ouvrière de la crise. Et là, c'est pas seulement Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen ou que sais-je, c'est la sociologie du travail qui a changé. C'est-à-dire le fait qu'on soit passé des grandes entreprises collectives où la classe ouvrière est organisée, consciente d'elle-même, etc., à un travail de plus en plus individualisé, où les gens sont isolés.
Précarisés.
Le télétravail étant la forme ultime de cette parcellisation. Tout ça, évidemment, a créé les bases même de l'effondrement du Parti communiste et du Parti socialiste comme parti ouvrier, qui était la SFIO, indépendamment des erreurs des directions de ces partis, de leurs erreurs politiques, de leurs erreurs tactiques, etc. Ce qui se passe à partir de 73, des années 70, est absolument incroyable. Jusqu'en 73, 70%, vous entendez bien, 70% des ouvriers votent à gauche. Le fameux 21 avril 2002, 43% des ouvriers votent à gauche. Uh-huh. C'est-à-dire, il y a une déconnexion entre vote ouvrier et vote de gauche, je veux dire vote communiste, vote socialiste, vote d'extrême gauche. Et en plus, ce fameux 21 avril, le décalage qui avant était en faveur de la gauche dans l'électorat ouvrier devient un décalage favorable à Jean-Marie Le Pen qui fait 24% du vote ouvrier. Ce qui est déjà, pour le Front National, un grand succès. Et un succès très préoccupant. Mais alors, quand on regarde, je les prends avec des pincettes, parce que ces sondages datent du printemps 2011, et qu'au printemps 2011, il y avait une espèce d'engouement autour de Marine Le Pen. On l'a donné d'ailleurs à 23, 24, 25% des intentions de vote. Donc, ce que je vais dire mérite d'être nuancé. Mais dans un sondage qui date d'avril, si ma mémoire est bonne, 2011, Marine Le Pen nous est donnée comme faisant 36% de l'électorat ouvrier. Et le premier qui arrive derrière, il était encore candidat à l'époque, il s'était tenu bien, ou en tout cas on le croyait, je parle de Dominique Strauss-Kahn, il faisait 17% de l'électorat ouvrier. Suivi par Nicolas Sarkozy, 15%, les autres candidats socialistes, Aubry, Royal, Hollande, étant entre 15 et 16%. Donc, il ne restait à la gauche de la gauche, si j'y inclus le Front de Gauche de Mélenchon et le NPA, que quelques pourcents de l'électorat ouvrier. Vous voyez quel renversement historique dans une période qui n'est pas si longue que ça, qui est celle de la Ve République.
Voilà, dialogue avec Dominique Vidal, mais je rappelle que cet entretien date du 31 août dernier. On voit que pour beaucoup, on apprend beaucoup de choses sur le fond, mais concernant précisément aujourd'hui le vote de dimanche dernier, des indications ont été données selon des sondages sur 3152 personnes inscrites sur les listes électorales. C'était publié dans le journal Le Monde d'hier. On voit que concernant le profil des électeurs classés par profession et catégorie socio-professionnelle, concernant ce point des ouvriers votant pour le Front National, ils sont 29% à voter pour le Front National, mais ils sont 28% à voter pour le Parti Socialiste et 12% à voter pour le Front de Gauche. Donc au total, Front de Gauche plus Parti Socialiste, ça fait 40% d'ouvriers qui votent à gauche, 29% pour le Front National, 18% pour l'UMP, 8% pour le parti de M. Bayrou. On voit donc que les choses changent. Il faut être, encore une fois, je le répète, extrêmement précis sur ces notions, sur ces chiffres. On en parle beaucoup entre nous. On a bien raison actuellement, mais essayons de faire très très attention à nos sources et aux chiffres et aux mots que nous employons. Par exemple, très près des ouvriers, il y a les employés. Alors, c'est pas tout à fait la même catégorie socio-professionnelle, mais qui se définit « bonjour, je suis un ouvrier ». C'est pas toujours aussi simple que ça pouvait l'être, peut-être dans les années d'avant-guerre ou même d'après-guerre, où il y avait une fierté de s'afficher comme ouvrier, mais ça n'était pas toujours le cas. J'ai connu à l'époque, enfin voilà, dans mon enfance, des gens que ça gênait de se dire ouvrier, qui disaient « je suis un employé ». Donc ces catégories professionnelles sont des notions peut-être indispensables, mais éminemment floues. Donc on retrouve Dominique Vidal autour de cet entretien qui partait de l'idée Marine Le Pen emprunte et détrousse les idées et les concepts de gauche, on n'en a pas fini avec Le Pen.
On parle aujourd'hui, dans une journée, on nous a annoncé ce matin qu'un Français sur sept vivait en dessous du seuil de pauvreté, que le nombre de chômeurs était en train de repartir vers les 3 millions. Je veux dire, il faut bien mesurer ce que tout ça veut dire, qu'il y a 5 000 enseignants de moins alors qu'il y a 20 000 élèves de plus, que dans la santé, les hôpitaux, ça marche. Je veux dire, il faut bien mesurer dans quelle merde vivent les gens.
Parce que voilà, il y a une vieille idée reçue et une illusion qui est que ces désarrois populaires, ces souffrances populaires, eh bien, gonflent la gauche. Et que quand on est perdu, quand on est un ouvrier, quand on est un dominé, eh bien, qu'on aille vers la gauche. Et c'est pas toujours le cas. L'histoire montre que ça, parfois, et même assez souvent, était l'inverse.
Je crains même qu'effectivement, ce soit l'inverse. C'est-à-dire que la misère n'est pas bonne conseillère. Comme disait l'autre, on va pas citer à longueur d'émission, le racisme, le fascisme, c'est une colère qui se trompe
d'ennemis
et qui se trompe de solution. Et on retrouve... J'ai trouvé une très jolie phrase en préparant cette émission de Pierre Mauroy, qui était bien sûr un dirigeant social-démocrate du Parti socialiste, mitterrandiste, qui était Premier ministre, à qui on doit quand même quelques mois d'espoir, même si ça n'a pas duré. Un mois avant le 21 avril, dans une réunion du staff du candidat Lionel Jospin, Mauroy dit à Lionel « Nous devons parler plus fort aux travailleurs, Lionel. Il faut que tu adresses un message à la France qui travaille. » Et Pierre Mauroy ajoute « Le mot ouvrier n'est pas un gros mot, tu sais. » On est presque dans la caricature de ça. C'est-à-dire, on a d'un côté un parti communiste qui, pour des raisons historiques, s'est embarrassé d'un modèle qui l'a rendu incapable d'offrir une perspective, comment je dirais, enthousiasmante, durablement, pour pas seulement les couches populaires, aussi les intellectuels, aussi, enfin, la société française. On a un parti socialiste qui a trahi tous les espoirs qui avaient été mis en lui, notamment en 1981. Au fond, le travail de Marine Le Pen est assez simple, si je peux le résumer. Il s'agit d'opérer le rassemblement des cocus. Les cocus de Sarkozy, qui viennent, eux, de droite, c'est les deux tiers des nouveaux électeurs du Front National, et les cocus de Mitterrand et de Jospin, qui ne viennent pas directement, mais qui sont passés par l'abstention pour beaucoup d'entre eux, et qui forment, en gros, un tiers des nouveaux électeurs du Front National. Le rassemblement des cocus, grâce à ce discours, à ce cocktail de trois discours dont j'ai parlé, c'est ce à quoi Marine Le Pen s'est attelée. Et il est particulièrement inquiétant de voir que le débat politique continue à s'enliser dans des questions qui n'intéressent absolument pas la réalité de l'immense masse de nos compatriotes, au lieu de traiter des questions qui les concernent. Et c'est là la difficulté. C'est que le discours de Marine Le Pen, qu'il porte sur le nationalisme et les dégâts de la mondialisation ou de la politique de l'Union européenne, qu'il porte sur la xénophobie et la concurrence sociale réelle, telle que les gens la vivent, ou qu'il porte sur ce discours presque socialo-communiste, si j'ose dire, il s'enracine pour les gens dans des réalités vécues. Et faute d'autres réponses, eh ben, ils vont chercher. Vous vous souvenez ce que disait Le Pen ? On a tout essayé, sauf le Front National. Tout ça, ça travaille.
Ce premier tour n'est pas une fin en soi.
Marine Le Pen.
Mais le commencement.
22 avril 2012.
D'un vaste rassemblement des patriotes de droite comme de gauche, des amoureux de la France et des défenseurs de son identité. Des amoureux de l'exception française. Chers amis, Français, rien ne sera plus jamais comme avant. Car face à tout le système coalisé, à coups de mensonges et de faux sondages, nous tous, ensemble, avons fait exploser le monopole des deux parties de la banque, de la finance, des multinationales, du renoncement et de l'abandon. Nous avons porté plus haut que jamais les idées nationales. Mais il ne s'agit là que d'un début. Maintenant, face à un président sortant à la tête d'un parti considérablement affaibli, nous sommes désormais la seule et véritable opposition à la gauche ultralibérale, laxiste et libertaire.
Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu ne crois pas, tu ne crois ça.
Alors Dominique, en étant très prudent toujours avec les comparaisons, la politique économique du Front National a été quand même très souvent de l'ultralibéralisme le plus déchaîné. Si on lit les programmes et les projets du Front National, a été, je dis bien.
Ah bah oui, oui.
Or aujourd'hui, si on écoute Marine Le Pen, eh bien, elle est devenue, semble-t-il, altermondialiste contre les paradis fiscaux. Elle va soutenir, sans doute, comme d'autres d'ailleurs, la taxe Tobin chère au monde diplomatique. C'est quand même encombrant, cette...
Je crois, Daniel, pour être bien précis, il y a ça et le reste. C'est-à-dire, je crois que Marine Le Pen, les dirigeants du Front National, savent que le gros de leur base, c'est pas la classe ouvrière, ou ce qu'il en reste. Je veux dire, ce qu'il en reste au sens où ceux qui ont conscience d'en faire partie. En soi, des ouvriers, il y en a toujours beaucoup en France, mais il y en a très peu qui ont conscience de faire partie d'un ensemble qui s'appelle classe ouvrière, ou qui s'appellerait classe ouvrière. Donc, il n'y a pas de doute que dans le programme du Front National et dans sa politique, l'attention portée aux artisans, aux commerçants, aux petits patrons, aux classes moyennes, aux cadres, etc., est une attention maintenue et développée. Ce qui est nouveau, c'est effectivement le camouflage dans les promesses démagogiques à l'égard des catégories populaires qui étaient beaucoup moins présents avant. Et c'est un camouflage, je le répète, qui a pour but à la fois de draguer cet électorat comme force d'appoint. Ça ne va pas être l'électorat décisif, mais c'est une force d'appoint indispensable pour la stratégie qui est celle de Marine Le Pen, et d'autre part pour la légitimation du Front National comme un parti comme les autres, respectable, qui a donc droit d'aller au pouvoir avec d'autres, en alliance avec d'autres, etc. Donc c'est un discours complexe, il ne faut pas le simplifier. C'est pour ça, par exemple, que quand on interroge Marine Le Pen sur la question des retraites, elle est bien ennuyée, parce qu'elle ne veut pas désavouer les positions qui ont été celles du Front National, mais elle ne veut pas non plus les répéter. Donc, en général, elle fait comme d'autres dirigeants politiques que je ne citerai pas autrefois, et qui disaient « Votre question est excellente, passons à la suivante ». C'est un peu une des difficultés du discours du Front National, c'est qu'il doit tenir beaucoup de fronts à la fois. Alors, moi, je crois que la stratégie qu'elle met en œuvre, c'est-à-dire elle n'est pas dans la conquête du pouvoir un grand soir avec les forces de je ne sais quel ESA, SS et autres, elle est dans la, ce que Gramsci appelait la conquête de l'hégémonie dans la société civile. Convaincre la société française le plus largement possible qu'effectivement la mondialisation c'est pas bon, qu'effectivement l'Union européenne, il faut sinon s'en retirer parce que ça marche pas, mais en tout cas sortir de l'euro. Qu'effectivement, il faut réserver l'emploi aux Français de souche, les prestations sociales réservées aux citoyens, etc., etc. Quand on fait la liste de ce qu'est le programme de Marine Le Pen, ce sont les idées qu'elle essaye de faire passer dans la classe ouvrière, mais bien plus largement dans la société française. En moins d'un an, elle a réussi à faire avancer ce que Gramsci appelait des positions dans la société civile, ces fameuses casemates qu'il ne faut pas investir violemment, mais investir progressivement. Et on aurait tort de sous-estimer le danger. Encore une fois, on n'est pas dans les années 20, on n'est pas dans les années 30, mais quand même, l'ampleur de la crise, et on n'est pas au bout de nos peines, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, la vague islamophobe, avec les alliés qu'elle a su trouver dans une partie de la gauche, voire de l'extrême gauche, c'est un deuxième point inquiétant. Et troisièmement, l'état, je ne sais pas comment il faut le qualifier, d'errance, de liquéfaction, de destruction, des appareils traditionnels de la gauche et même de l'extrême gauche. Tout cela, c'est quand même des éléments qui, sans amener au catastrophisme, on n'est pas en 1933, ni en décembre 32, mais quand même, il faut être attentif à tout ça et ne pas sous-estimer le danger.
C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas se contenter face à cette remontée du Front National sous cette forme-là, celle que Marine Le Pen a donnée au Front National. On ne peut pas se contenter, comme on l'a fait avec son père, de diaboliser, de rejeter, de se pincer le nez face à une horreur, comme on l'a beaucoup fait au cours de toutes ces années.
C'est contre-productif. C'est pire qu'inutile, c'est nuisible. Ça n'est pas sur ce terrain-là qu'on fera reculer le Front National et ses idées. On ne peut faire reculer le Front National et ses idées qu'en apportant des réponses à la fois radicales, sérieuses, convaincantes aux questions que les gens se posent dans la crise. Moi, ce qui me frappe, si vous me permettez juste un mot de plus, dans toutes les conférences que je fais, il y a un moment où je m'arrête et je dis aux gens, attendez, on oublie le Proche-Orient, la Palestine, Israël, tout ça. Nos logiciels ne sont plus au point. L'histoire va plus vite que nos grilles de lecture. Donc il faut absolument prendre le temps de faire ce que les jeunes appellent « reset ». On remet le logiciel à plat et on l'adapte à la réalité d'aujourd'hui. Quand on met bout à bout les intifadas arabes, si on veut l'appeler comme ça, l'intifada israélienne de cet été, les indignés, la poussée des émergents, la nature de la crise mondiale, le recul de l'hégémonie américaine. Volontairement, je mets tout ça dans un grand sac et je secoue. On est obligé de penser et de remettre à jour l'ensemble de nos grilles de lecture. Sinon, on ne répondra pas aux questions posées. Et si nous, on n'y répond pas, quand je dis nous, mouvement démocratique dans son ensemble, d'autres y répondront. Et ces autres-là, quand même, l'histoire montre qu'on ne saurait trop sous-estimer leur danger.
Voilà, on n'est pas au bout de Le Pen, mais nous avons des armes. Retour donc sur cette conversation du 31 août dernier avec Dominique Vidal. On vous donnera la bibliographie de Dominique Vidal sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Je vous rappelle l'un de ses derniers bouquins pour lequel il était venu nous parler. Un autre Israël est possible, 20 porteurs d'alternatives avec Michel Warchavski. Et puis un livre aux éditions du Cygne, Shoah, génocide et concurrence des mémoires, et puis bien sûr, c'est Les 100 clés du Proche-Orient avec Alain Grèche, aux éditions chez Hachette, un livre très précieux comme à consulter souvent. Donc, toutes les informations sur le site de France Inter. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org, vous pouvez réécouter, et vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de l'émission à la technique aujourd'hui, Alice Berger et Thomas Eliès. Bertrand Chometon et Franck Aderer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
À bord tout le monde, c'est l'heure d'embarquer.
T'as tout prévu pour notre partie de pêche, les cannes, les appâts.
J'ai même pris l'assurance Matmut pour le bateau.
C'est sérieux comme préparatif. Avec la Matmut, on est paré pour appareiller.
À ton avis, la Matmut, elle assure aussi contre les bredouilles?
Pas sûr, mais avec la Matmut, tout est possible. Tout est réalisable.
Je ne vous répéterai pas ce que vient de me dire notre technicienne. À l'instant, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet.
Patrice Demestre saura demain si oui ou non il sort de prison. L'ancien homme de confiance et gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt a défendu ce midi auprès de la cour d'appel de Bordeaux sa nouvelle demande de remise en liberté. Le parquet a requis lors de l'audience son maintien en détention. Écroué depuis le 23 mars dernier, il est le seul détenu dans l'affaire Bettencourt pour laquelle il est poursuivi pour abus de faiblesse. À 12 jours du deuxième tour de la présidentielle, François Hollande promet, s'il est élu, d'être un président proche des Français. Le candidat socialiste qui a pris le TER pour rejoindre Hirson dans l'Aisne aujourd'hui a exprimé son souhait d'utiliser le train par souci de proximité et en même temps d'économie. Il promet aussi de rendre des comptes lors de conférences de presse. Ce soir, retour à Paris pour lui où il doit prononcer après Nicolas Sarkozy un discours à l'occasion de la commémoration du génocide arménien. Nicolas Sarkozy, lui, était à Longjumeau dans l'Essonne. Le président candidat a poursuivi son offensive en direction de l'électorat de Marine Le Pen. Il estime que le vote pour le Front National dimanche n'est pas un vote contre la République. Le site internet de l'aéroport de Tahiti a été piraté aujourd'hui. Sur sa page d'accueil, on pouvait y lire la disparition d'un jet privé avec à son bord Nicolas Sarkozy. Le message était truffé de fautes d'orthographe et indiquait donc ceci. Nous venons de perdre un avion avec à bord le président Sarkozy. Ce jet se rendait à Bora Bora et à 10 minutes de l'arrivée, un SOS nous est parvenu. Toutes nos condoléances à Madame Sarkozy, a écrit le ou les mauvais plaisantins. Alessandro Benetton succède à son père Luciano. Il a été nommé aujourd'hui à la tête du groupe de mode italien Benetton, dont qui est la marque fondée il y a 47 ans et connue pour ses pulls colorés et ses publicités provocantes. Benetton compte 6500 magasins dans le monde et cette holding est en perte de vitesse l'an dernier, conséquence de la récession en Europe et de la hausse des prix des matières premières. Le bénéfice net de Benetton a chuté de plus de 28%. Un gendarme a été condamné aujourd'hui à Saint-Étienne à 6 mois de prison avec sursis, interdiction d'exercer son métier de gendarme pendant 5 ans. La justice lui reproche d'avoir menotté un mineur de 17 ans à un arbre pour tenter de lui faire avouer un cambriolage. C'était une fausse alerte. Le courrier destiné à l'ambassade de France à Jakarta, qui était soupçonné de contenir de l'anthrax, s'est finalement révélé vide. Deux employés de l'ambassade qui l'avaient manipulé ont eux été hospitalisés à titre de précaution ce matin. La circulation est très perturbée cet après-midi sur la Nationale 12 entre Guingamp et Morlaix. Suite à une collision avec une voiture, un poids lourd transportant des matières dangereuses est en feu. Un périmètre de sécurité de 300 mètres autour a été mis en place. Le trafic ferroviaire a été, lui, légèrement perturbé aujourd'hui en Belgique. Un train a percuté ce matin un lama qui errait sur les voies. La police belge tente maintenant de savoir d'où venait le lama. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Les couleurs musicales d'Inter.
heures de programme musical non-stop.
Les 80 nouveautés du moment.
Oh yeah.
Sélectionnées par France Inter.
Mon nom est Tom, et ma Tom Cloud Man.
Les couleurs musicales d'Inter.
En partenariat avec Deezer.
Couleurs musicales. À écouter dès maintenant
sur franceinter.fr.
France Inter.
La différence.
Allez Frédéric Lodéon, c'est à vous maintenant. Bonjour.
Merci chère Laetitia Gaillet.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Après Beethoven hier avec le grand Daniel Barenboim, pianiste et chef d'orchestre mondialement connu, donc Beethoven le lutteur, le moraliste, le bâtisseur. Aujourd'hui, plus tranquillement, je dirais Robert Schumann, le musicien poète. Enfin, tranquillement pour nous, sa musique est souvent proche du cœur. Il n'a pas d'ambition, par exemple, de construire des monuments, mais simplement de nous confier quelques moments particuliers de son âme. Et Robert Schumann, mort beaucoup trop jeune, à 46 ans, n'était pas le combattant qu'a été Beethoven, c'est sûr. Pourtant, il avait à se battre contre lui-même, notamment, parce qu'il va être emporté, on le sait, par une maladie mentale importante. On n'a pas complètement éclairci les causes, pas mal de discussions ont eu lieu, mais en tout cas, on va se pencher sur un coffret qui vient de paraître, donc réédition autour d'Éric Lesage, le pianiste d'œuvres pour la musique de chambre de Schumann. Pour commencer, une simple et intime confession, je dirais, tirée des trois romances pour hautbois et piano de Schumann. Donc, c'est daté du 7 au 12 décembre 1849. En fait, un cadeau de Noël pour la chère Clara, la chère épouse pianiste elle-même et puis mère de ses enfants.
Thank you.
La deuxième des trois romances pour hautbois et piano de Robert Schumann, simple et intime. Et